Radio Okapi vous propose ce programme en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives Okapi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h en rediffusion de 20h à 22h heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h en rediffusion de 22h à 23h heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15 jusqu'à 20h en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30 heure de Kinshasa. Radio Okapi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Monsieur Guy Nkajemba, bonjour.
Bonjour Tati.
Vous êtes le coordonnateur de GTCRR et là vous venez de faire une descente sur terrain au niveau de la province de la Mongala, à Lissala spécialement. Dites-nous quel a été l'objet de votre mission de terrain.
Oui, nous avions effectué une mission de terrain dans la Mongala et à Lissala et à 70 km de Lissala. L'idée c'était d'aller voir un peu les investissements RAID. Voir un peu comment est-ce que ça impacte la vie des communautés et comment est-ce que ça évolue de manière à ce que nous puissions être rassurés que les communautés participent effectivement et réellement à ces activités.
Cordon, et une fois sur terrain, quel a été le constat qui a été fait et quelles sont les suggestions que vous comptez remonter ici au niveau des partenaires qui sont impliqués dans les projets qui sont réalisés en faveur des communautés locales au niveau de l'Issala et environ?
Bon, nous avons pu avoir deux échantillons de programmes. Nous avons visité le programme intégré RAID Plus qui est porté ou mis en œuvre par Enabel, par la coopération belge.
En quoi il consiste ce programme?
C'est un programme intégré RAID. C'est un programme qui développe un certain nombre d'activités qui sont liées au moteur de la déforestation dans les milieux et qui permettent à ce qu'on puisse appuyer toute activité des communautés qui va dans le sens de les aider à éviter ou à réduire leur mouvement ou leur pression sur les forêts. Et là, il y a les activités qui sont en vue et qu'on voit souvent, c'est l'agriculture cérébrale, c'est le problème d'accès au bois énergie et évidemment la question de gouvernance ou d'organisation de communautés pour qu'ils puissent définir clairement leurs besoins en termes de développement.
Ça, c'est d'une part, d'autre part.
De l'autre côté, il fallait aussi voir un peu l'impact du projet Forabola, Accessoire de Fort, sur les communautés riveraines de ce programme et voir un peu quelles sont les activités, quelles sont les actions qui sont développées en faveur des communautés pour que finalement le paradigme de bois en présence et des écoles sans banc puissent un jour trouver une réponse. Et voilà, donc à ce niveau-là, nous avons pu constater qu'il y a encore un renforcement de capacités à faire à tous les niveaux, au niveau des communautés, pour qu'ils puissent effectivement définir le vrai besoin. La tendance au milieu, c'est de penser qu'il faut avoir des mini-écoles, des petites écoles là où finalement les enseignants on n'en trouve pas, où enfin, les infrastructures sont difficiles à avoir, l'agrément est aussi très compliqué. Et que donc il faudrait que nous puissions accompagner. Il est important que les communautés soient accompagnées pour qu'ils puissent définir des besoins qui vont dans le développement intégral, dans le développement holistique, qui prend en compte tout ce qu'ils ont comme besoin, de manière à ce que la construction d'une école soit une contribution de revenus de communautés, pas un financement. Et donc c'est un peu ça, et c'est là de ce côté-là. Du côté de PIRED, on a pu constater qu'il y a un problème de communication, un problème de visibilité par rapport aux initiatives qui sont prises, et que donc nous aurions voulu un rapprochement entre les porteurs du projet et les communautés, de manière à ce que ça soit un peu plus fluide. Les communautés semblent ne pas comprendre ou ne pas être bien informé des initiatives. Et voilà, donc ça aussi, il fallait essayer un peu de discuter pour voir si on peut partir de ces nouvelles bases, des bases qui informent les communautés à temps réel des initiatives prises et des objectifs envisagés.
Est-ce que le problème se pose au niveau de l'adhésion des communautés locales sur les actions qui sont réalisées par Pired et sur terrain, ou c'est Pired qui mène les activités sur terrain sans pour autant associer les communautés locales qui sont les premiers concernés des projets qui sont réalisés localement?
Bon, à tous les niveaux, le niveau le plus pertinent ici, c'est que dans ce genre de programme, comme nous avions dit et comme on le dit toujours, nous, on n'a pas besoin de ce genre de programme macro qui viennent avec des millions de dollars et puis finalement, il n'y a rien. On en parle tout le temps avec des grands programmes de la Banque mondiale, des gros financements qu'on annonce par-ci, par-là, des milliards et des millions de dollars. Ici, l'idée, c'est que les attentes des communautés sont parfois dans la même dynamique, dans la même logique. Nous sommes ici dans une logique de réduire la pression sur les forêts. Et que donc, si une autorité provinciale a besoin de construire une route dans la forêt, cette route n'est pas la bienvenue parce qu'elle risque de servir à l'envers, de servir à autre chose. Et à ce moment-là, ça devient un problème. Et pourtant, la route est importante pour le développement. Donc, la compréhension disons, orientée de ce genre de programme pose un problème dans la communication. Et donc, ça fait en sorte que, finalement, les gens disent qu'ils ne voient rien, qu'il n'y a rien qui est fait, parce qu'ils ont besoin d'avoir des routes, des bâtiments, des écoles, afin des infrastructures qui ne sont pas une priorité. La priorité ici, c'est de voir si une communauté ou un groupe de peuples autochtones, qui sont à Bongandanga par exemple, peuvent aujourd'hui se rassurer que s'ils abandonnent leur va-et-vient sur les forêts, ils vont trouver des réponses ailleurs. Mmh. Et la réponse ailleurs, c'est le Pired qui doit amener. Le Pired qui doit amener des propositions qui permettent à ce que ces communautés-là puissent se dire finalement, si je fais, avec l'appui des programmes, si je fais l'agriculture,
l'élevage derrière la case,
ça va me permettre de vivre et de ne pas aller dans les forêts. Et in fine, ce sont des programmes, ce sont des projets qui vont s'arrêter dans 3 ou 4, 5 ans. In fine, ces provinces-là ou ces programmes-là doivent être en mesure maintenant d'entrer sur le marché carbone et cette fois-là de démontrer au niveau international qu'ils ont séquestré et qu'ils ont maintenant une habitude qui permette à ce qu'on puisse compter sur eux pour vendre leur carbone avec des assurances que ce carbone sera préservé et sera disponible tant qu'on en a besoin.
Et concernant l'exploitation forestière, vous avez dit qu'il faut arriver à élaborer un cahier des charges holistique. Qu'entendez-vous par un cahier des charges holistique?
Je pense que les textes qui définissent les cahiers des charges sont devenus des textes obsolètes. Ils s'appuient sur ce qu'ils appellent les comités locaux de gestion et ils s'appuient sur le contenu par rapport à la lecture des besoins de communautés qui sont orientés beaucoup plus sur la construction des écoles et des hôpitaux, des centres de santé. Et donc, nous, dans la vision RED, déjà, nous avons une autre façon de voir les choses. C'est qu'on définit, nous appelons ça un plan de partage de bénéfices, où carrément, nous commençons par une structuration des communautés, pas en termes de comité local de gestion, mais un comité local de développement. Okay. Parce qu'en fait, finalement, ces communautés-là, ces organes de gouvernance du groupement ou des territoires pensent que ces organes de gouvernance du territoire du porteur de projet, c'est-à-dire de Forabola. Et que donc, là ça biaise tout. C'est Forabola peut partir, ils ont besoin de se développer. Et que donc, la réflexion, ça doit être une réflexion globale par rapport à l'ensemble des potentialités qu'ils ont dans la province. À côté, dans le village, ils produisent des produits agricoles. Et ils doivent réfléchir sur comment, au lieu de passer des écoles, comment est-ce que ces produits agricoles peuvent être transformés, conservés ou être vendus de manière à ce que les revenus puissent constituer des moyens pour acheter les tôles pour les écoles. Et donc, c'est ça l'idée que nous avons, qu'on va discuter avec les porteurs de ces projets d'exploitants industriels de bois, pour qu'ils puissent un peu revoir, repenser un peu un autre moyen, avec les mêmes ressources, bien sûr, ou avec des ressources supplémentaires, repenser un peu l'appui aux communautés pour qu'elles puissent effectivement... On ne peut pas, pendant 18 ans, construire des écoles. C'est quelqu'un qui a 18 ans, il doit avoir fini. Est-ce qu'il faut encore construire une école pour qu'il rentre à l'école? Mmh. Ou alors qu'il faut accumuler des finalistes? Et finalement, on aura un village avec beaucoup de gens qui ont fini des écoles, et puis après, quelle est la suite? Donc, je crois que les écoles, on peut les construire pendant 6 ans, ou 12 ans, ou 18 ans, peu importe, et qu'à la fin, on commence à dire, bon, nous avons déjà un premier finaliste. Quelle est la suite? Où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il peut... Bon, c'est sûr qu'une grande partie est utilisée dans les progrès, dans les projets, mais c'est combien? Ça, c'est notre discussion. Donc, c'est un peu ça, oui.
Ok, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Une autre question d'actualité, c'est celle de la lettre d'intention qui a été émise depuis le 2 septembre dernier. C'était d'abord une information d'embargo et ça a été officialisé le vendredi. On voudrait avoir, concernant l'exploitation, la levée du moratoire sur les concessions forestières en RDC en vigueur depuis 2002. On voudrait également avoir les points de vue du GTC. RR sur cette lettre d'intention.
Oui, nous soutenons, comme on avait toujours dit, nous soutenons que la levée de moratoire est imminente et qu'elle doit se faire dans les normes. Et donc, comme nous avons toujours dit dans notre position initiale, qui a été reprise par le groupe, par les amis internationaux, la société civile internationale, qui a repris un peu nos préoccupations, qui restent des préoccupations légitimes et sur lesquelles nous allons nous battre jusqu'à ce que ces préoccupations soient prises en compte. Notamment, comme je veux dire ici, la programmation géographique est le premier élément. Et le deuxième élément qu'on n'a pas bien souligné, c'est la conduite de manière participative, de manière objective de la revue légale. Cette revue légale, c'est une analyse globale qui a été diligentée, qui a été acceptée par tout le monde pour qu'on puisse avoir la clarté sur la gestion forestière en termes de voir un peu tout ce qu'il y a comme concession, la traçabilité, la légalité et évidemment les violations des textes qui existent. Et que donc ces deux éléments-là ont constitué pour nous, et je pense que c'est relayé par tous les partenaires. Le niveau où nous ne sommes pas ensemble, nous comme société civile nationale, c'est que nous ne pensons pas, c'est sur deux choses. La première chose, c'est qu'on ne peut pas bloquer l'ensemble du processus rien que pour ce débat sur le moratoire. Donc, étant donné que, comme je l'ai toujours dit, ailleurs il n'y a pas de moratoire, il y a toujours des problèmes de gouvernance. Donc au-delà de lever ou ne pas lever, il y a un travail à faire pour essayer un peu d'accompagner ou d'aider la République à avoir une gouvernance forestière qui est sobre, qui est claire, qui est une bonne gouvernance forestière. Et donc, à ce niveau-là, c'est là où on a un peu une divergence, parce que s'il faut arrêter les investissements, nous, comme société civile, on peut accepter, parce que nous avons des communautés avec nous qui attendent beaucoup de ces investissements, et que donc, on peut, je pense, corriger en avançant. C'est aussi le même problème lié au prochain financement que nous sommes en train de... que la République est en train de négocier avec CAFI sur les 10 ans qui suivent avec les 1 milliard de dollars prévus. Et ce moratoire, il a toujours été là, il a toujours été violé, mais nous avions déjà signé une première lettre d'intention qui était autour de 200 millions et qui finalement devrait être évaluée selon la vice-première ministre. Mais aussi, je crois et je suis très convaincu, je l'ai dit ce matin aux amis d'Amnesty, de Transparency International, que si on jette un coup d'œil dans l'ensemble des investissements en RDC par rapport au financement des bailleurs multilatéraux, ce financement a été plus utile que les autres. C'est un financement de 200 millions de dollars pour 5 ans, et que au moins là, on ne parle pas de l'IGF, on ne parle pas de la barbarie ou des fraudes ou de quoi. On parle peut-être de la non-réalisation des résultats liés au contexte du pays, qui est un contexte très compliqué. Donc nous soutenons que il y a beaucoup de choses à faire avec ça, mais je pense que c'est déjà un début et qu'il faut construire sur ce début-là. On construit sur l'existant. Donc nous n'allons pas conditionner la poursuite des négociations de la République sur la deuxième lettre d'intention sur le deuxième financement à toutes ces questions qui ont toujours existé et qui nous gangrènent depuis le temps. Là, nous aurons un débat très compliqué parce que nous connaissons comment ce débat il a été même relevé depuis beaucoup plus d'années. Ici, nous parlons de la forêt, on ne parle pas de la démocratie. Les forêts se construisent avec ou sans démocratie. Nous sommes le deuxième poumon mondial. Si on était mauvais en démocratie, pourquoi on est deuxième? Et pourquoi est-ce que les meilleurs pays démocratiques ne sont pas premiers pays forestiers? Il faut qu'on fasse la part des choses, qu'on laisse la République, qu'on laisse les forêts, qu'on laisse le peuple autochtone, la communauté locale jouir de leurs droits de forêt au-delà de tous ces débats sur, sur la démocratie, sur la gouvernance, sur les capacités du gouvernement à avoir des techniciens qui peuvent suivre tous ces éléments-là.
Nous considérons comme votre dernier mot. Merci beaucoup.
Radio Okapi vous propose désormais ses magazines thématiques hebdomadaires du lundi au vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Retrouvez Maïcha Bora chaque lundi, Droit et citoyenneté mardi, Parité et famille mercredi, Écho du développement jeudi, 100% jeunes vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Sachez également que les magazines Étoiles vous est proposé désormais samedi à 19h05 et lundi à 15h30. Identité culturelle, samedi à 8h30 et dimanche à 11h05. Grande interview, samedi à 10h05 et dimanche à 9h05, heure de Kinshasa. Prenez également rendez-vous avec les magazines des Nations Unies tous les dimanches à 8h30 et 19h05, heure de Kinshasa. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.